festival dans ce parc du Crochetan qui venait d'être rénové à l'époque. Et on s'est dit, il faut absolument mettre aussi ce lieu en valeur. Donc, ça serait dommage de monter les clôtures autour. Il faut que ça se voit, quoi. Il faut que ce soit ouvert et puis accessible à tous.
Alors, un festival gratuit, mais qui n'enlève rien à la qualité des groupes qui sont présents chaque année. Et pour cette 6e édition, vous ne dérogez pas à cette règle avec une très, très belle affiche. Alors, sans rentrer dans tous les détails, mais deux mots de la prog avec un bel équilibre aussi avec des découvertes et des artistes du coin et des noms aussi un peu plus connus et implantés dans le milieu du blues.
Oui, c'est ça. Alors, on essaie toujours un peu de mixer des groupes suisses et des groupes internationaux. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura les Belges de The Blues Bones le samedi soir en clôture. Le vendredi soir, on aura Cathy Boyer and the DTG Gang, donc qui nous viennent de France. Cathy Boyer, c'est une chanteuse qui fait aussi de l'harmonica. Et ça, on se réjouit de les accueillir. Ça va bien, c'est vraiment super. Effectivement, The Two le vendredi soir aussi, et puis en première partie de soirée pour le vendredi, Lucky Lee and the Cavalry qui viennent du Valais aussi, qui font du bluegrass, et c'est vraiment super. Et puis le samedi, on reprend donc avant The Blues Bones, il y aura The Strikers qui nous viennent aussi de France, qui font du blues rock assez péchu, et puis Vincent Brothers, donc Vincent Barbonne, le local, le régional, qui est entouré de super musiciens et qui va nous faire des reprises blues endiablées. Ça va être
et c'est aussi ça l'âme du festival, c'est Vincent Barbonne qui est un spectateur, qui est un musicien, qui sera sur scène, et c'est cet échange, c'est vécu par et pour des musiciens, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. C'est la force de ce festival.
Exactement, ouais, c'est une histoire de passion avant tout, quoi. C'est la musique qui est fédératrice et puis qui réunit tout le monde.
Alors on parle de musique, mais il y a aussi 2-3 défis logistiques cette année.
C'est ça, oui. Donc cette année, on aura de la vaisselle consignée qui nécessite une organisation en amont. Trouver des fournisseurs et puis stocker le jour même, prévoir les espaces, etc. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour 2024. En plus, de toute la logistique habituelle du festival, quoi.
Ça met une petite pression supplémentaire, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les éditions, on prend aussi de la bouteille, on est plus à l'aise pour faire face aux imprévus.
Exactement, oui.
Parce que là, il y en a un.
Oui, il y en a, en commençant par la météo, disons que
c'est voilà, le premier point.
Le facteur, on va dire, là, on espère toujours qu'on aura du beau temps. On a vraiment eu de la chance lors de toutes les dernières éditions. Donc, vraiment, on touche du bois pour que tout se passe bien.
Ce sera toujours en été, on est d'accord, on fera pas ça au mois d'avril.
Exactement, oui, c'est bon. Les 9 et 10 août cette année, si vous voulez déjà noter les dates.
Vu que les saisons, elles sont toutes inversées, on verra.
Voilà, c'est ça.
Mais en général, il fait beau et il fera beau cette année. L'importance aussi de ce festival, c'est l'importance des bénévoles, qui ont un rôle extrêmement, qui est vital quasiment.
Oui, tout à fait, donc c'est vraiment eux qui font le cœur du projet. Sans eux, il n'y aurait pas de festival, tout simplement, puis il n'y aurait personne pour servir des bières, il n'y aurait personne pour monter, démonter, enfin, il n'y aurait rien, il y aurait le parc. Donc, oui, les bénévoles, on est en tout une septantaine à bosser le week-end du festival. Donc c'est vraiment une grosse équipe, donc qui est répartie entre le bar, le stand traditionnel de raclette, la scène, et puis on aura cette année une nouveauté, c'est une green team qui va s'occuper de faire en sorte que le parc soit tout le temps propre, donc qui va ramasser au fur et à mesure les éventuels déchets, etc., s'occuper de la gestion des poubelles, et puis faire en sorte que le parc soit un endroit agréable.
Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ambiance qui y règne pour les personnes qui seraient encore jamais allées au Chablous Festival? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on ressent là-bas?
Alors, on est un peu comme, c'est un peu un mini Woodstock, pour reprendre les termes du chanteur de Canada Heat qu'on a eu l'année passée, qui eux ont vraiment fait Woodstock en 1969.
Effectivement.
Donc, il a dit, hey, looks like Woodstock, mini Woodstock there. On était super flattés. Donc, c'est un peu ça, disons que, on a vraiment ce parc d'herbe et puis cette scène au milieu de Montet, en fait, donc on a pas vraiment l'impression d'être au milieu d'une ville de 18 000 habitants, et on est libre d'aller de partir vu qu'il y a pas de clôture, puis c'est vraiment, l'ambiance est conviviale, quoi. C'est il y a pas vraiment d'autres mots, il faut venir pour voir.
Convivial, familial et de qualité. Donc c'est le Chablous, ça sera les 9 et 10 août prochains. Pascal Viguelot, merci d'être venu nous parler de cette programmation.
Merci à vous.
Et on vous souhaite plein succès, bien évidemment, pour les 9 et 10 août prochains. Et on se donne rendez-vous au Parc du Crochetan.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On en parlait mardi dans Attends, je t'explique, avec leurs deux cofondateurs David Rosset et Emmanuel Cottier. La troisième édition du Montreux International Guitar Show débute demain. Et avec de la nouveauté cette année, puisque pour la première fois, des ateliers ont été mis sur pied. Ils offrent la possibilité aux amateurs de venir gratter leur guitare et de recevoir des conseils de professionnels de renom, et ce, depuis le début de la semaine déjà. Un moment de partage que nous allons découvrir avec la plus progressive rock de nos journalistes, Martine Wüstiner. Reportage.
On est aujourd'hui à Montreux pour participer à un atelier rock dans le cadre du mix, le Montreux International Guitar Show. Je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Cet atelier, Vincent Schmitt, vous qui êtes l'un des co-organisateurs, à qui est-il destiné ?
C'est destiné à tout le monde, à tous ceux qui veulent apprendre le style rock avec les profs qu'on a qui sont vraiment fabuleux. On a Jack Gardiner et puis Saturax. Et puis justement, c'est vraiment destiné à tous ceux qui adorent découvrir l'improvisation et la guitare électrique.
C'est la troisième édition du Montreux International Guitar Show, mais la première fois que ce type d'atelier a lieu. D'où est venue cette envie, David Rosset, vous qui êtes l'un des organisateurs?
Alors, on a eu avec Emmanuel, donc, qui est à la base du projet, quand on a discuté, on avait déjà cette idée de faire plus qu'un salon de la guitare. Les deux premières années, on a dû se concentrer sur le salon, et puis cette année, avec l'arrivée de Vincent dans la team, on s'est dit, c'est peut-être le moment de développer cette Mix Academy, et puis on va commencer par des camps. Donc, on a trouvé des artistes qui étaient motivés à le faire, on a un petit peu sondé des élèves, et puis voilà, donc ça fait partie du développement.
Il y a déjà du beau monde pour ce mix. C'est quoi pour vous, Emmanuel Cottier, l'objectif en tant que l'un des fondateurs de l'événement ?
Le salon, c'est une chose, mais les master camps, on a vraiment envie de développer ce qu'on a créé. Ça s'appelle la Mix Academy avec Vincent, où justement l'idée, c'est de plus en plus offrir de cours intéressants durant l'année, durant les vacances. En fait, on apprend et puis on va évidemment faire plus, quoi, parce que c'est super intéressant et on vit une super aventure. Et puis les gens sont super contents. Donc on se dit qu'il faut en faire plus. Bien sûr, à 100%.
L'univers de la guitare est vaste. David Rosset, vous avez choisi différents ateliers. Comment est-ce qu'on met ça en place ?
On se met dans la peau d'un élève et dire par qui on aimerait être inspiré. Qui fait quoi ? Qui fait l'actualité aussi ? Quel artiste ? Là, on a des youtubeurs qui sont réputés, donc on offre aussi l'opportunité aux gens de rencontrer ces gens-là en vrai, de passer une semaine avec eux, de discuter. On parlait de Thibaut Covin, ça va être Thibaut Covin, il a une vie extraordinaire, donc ça sera des échanges. Donc voilà, on essaie un petit peu de réfléchir à ça. On a des pistes déjà pour l'année prochaine aussi, et de se dire, voilà, est-ce que ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un? Et puis, on essaye. Puis après, parfois, c'est un pari qu'on fait. Et puis, ça marche ou ça marche pas.
On doit faire un barré, ouais. On doit faire un barré à la 7e case. Pas super évident.
Robin Angelini, vous êtes plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Saturax. C'est vous aujourd'hui qui donnez cet atelier rock. Comment est-ce que c'était ?
Les gens ont l'air très très contents. La veille, ils ont eu Jack Gardiner qui s'occupe. On est deux sur cette classe de rock. Et voilà, on explore les choses un petit peu différemment. Voilà, j'essaye de les emmener dans des chemins qu'ils n'empruntent pas habituellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver pas mal d'informations sur Internet. Donc voilà, de pouvoir sortir un petit peu de sa chambre et d'explorer d'autres parties de leur jeu, tout simplement. Voilà.
Ça vous apporte quoi à vous de donner ce cours ?
On rencontre les gens et puis après c'est des gens qui nous suivent souvent sur les réseaux, qui nous ont vus à tel endroit ou machin et tout. Donc voilà, c'est toujours un privilégié, même pour nous en tant qu'enseignants, on va dire, de passer du temps avec des gens et puis d'avoir le plaisir de leur transmettre ce qu'on peut leur transmettre.
C'est pas grave, c'est pas bien.
Okay. Tadeo Piana, vous êtes venu participer à cet atelier rock, pourquoi ?
Déjà, je suis venu toute la semaine parce que j'avais besoin vraiment de nouvelles matières sur lesquelles travailler. Ça fait un petit moment que je fais de la guitare et puis j'avais vraiment besoin d'avoir des feedbacks sur mon jeu et des plans à travailler. Et surtout, rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi. Et puis voilà, me donner plus de motivation pour continuer cette aventure, cette longue aventure qu'est la guitare, avec des personnalités que je suis depuis longtemps sur Internet. Et puis qui sont vraiment des valeurs sûres actuellement dans les domaines que j'aime.
C'est
exceptionnel. L'organisation est top, les gens que j'ai rencontrés sont excellents, franchement, j'ai passé vraiment un super moment, puis c'est pas fini encore.
Et vous pouvez découvrir le monde de la guitare lors du Montreux International Guitar Show du 26 au 28 avril. Exposants, concerts et showcase sont à découvrir au Casino de Montreux.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On va terminer ce mag avec un événement unique sur notre planète et qui se week-end du côté. Le championnat du monde de tracassé. Xavier Borgeot, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tracassé?
Alors j'ai une petite idée, mais je suis pas un spécialiste.
On va utiliser une autre utilisation pour ce véhicule par rapport à ça. Le public devait payer en francs symboliques pour voir le show. Hein, et les premiers prix, c'était une assiette de filet de perche pour deux au resto du coin. Donc
ça avait commencé tout petit, mais en fait aujourd'hui c'est quand même un sacré événement.
Tout petit, et c'est vrai que chaque édition donc est bisannuelle, ça prend de l'ampleur. Hein. Déjà la dernière édition, il y a deux ans, en 2022, on avait quand même eu un nombre record de plus de 32 ou 33 tracassés inscrits. Là, on est à 39 inscrits, tout en sachant qu'il y a une tradition de ne pas s'inscrire et de s'inscrire au dernier moment, donc de venir au début de
la dernière course. Exactement. Avec son véhicule.
Voilà. Donc on est à 39, donc être peut-être à 42, ça commence à venir quelque chose. Donc il y en a encore qui traînent de ces véhicules quelque part dans les granges.
Et ça suscite, je crois que c'était la dernière édition, il y avait des médias français qui sont venus. Alors, on en sourit bien évidemment, mais ça montre quand même que ce côté populaire, festif et tradition, il est extrêmement important.
Non, exactement. C'est vrai que le reportage de Transpi, le quotidien, je crois qu'en 3 minutes, il démontre bien ce que c'est que la journée au tracassé. Donc, assez festeuse. Beaucoup de travail fait sur la décoration, donc il faut aussi reconnaître ça. Et c'est vrai que les gens aiment ça, aiment ce côté festif. C'est un peu un mini carnaval, hein, si je peux dire, un mini carnaval de Rio.
Ouf, ou un mini carnaval de montée, moi ça me botte, hein, direct j'y vais. Mais avant de parler de la course à proprement parler, moi je voulais vous demander, comment ça se prépare un tracassé pour la course et comment la course se prépare elle-même?
Alors, comme d'habitude, nous on sait rien. Ça veut dire que tout le monde sait que la course est le 27 avril, tous les compétiteurs, les concurrents savent que c'est le 27 avril. On communique ça normalement une année avant, ils savent, c'est le dernier week-end d'avril tous les deux ans. Et ils commencent à réfléchir en thème, hein, sur comment ils vont décorer leur tracassé. Et c'est le pas. Moi, j'ai vu la liste des gens inscrits. Et par rapport au titre des noms des tracassés, je peux essayer de deviner, j'imagine, certains décors. Mais voilà, autrement, le tracassé, la partie mécanique, ben, c'est vrai que souvent, il faut démonter le moteur, nettoyer le moteur. Enfin, il y a toute la partie mécanique, mais après, il y a toute la partie de décoration. Et ça, c'est vraiment à leur libre choix. Donc, ils font comme ils veulent. Certains investissent beaucoup de temps, beaucoup de moyens. D'autres veulent rester un peu plus légers. Donc, ça, c'est vraiment au libre choix, finalement, des propriétaires.
Et pour cette année, il y a une petite spécificité. Alors, c'est pas une limitation de vitesse à proprement parler, mais vous allez quand même faire un petit peu attention, quoi.
On va faire attention, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle le premier qui arrivait en haut, enfin, en moins de temps, qui gagnait la course. Et on a vu qu'avec les années, avec le nombre de concurrents, spectateurs
aussi.
Voilà, ouais. Ça pouvait venir un peu dangereux. Donc, on a décidé de faire un parcours d'agilité, où il y aura un temps de référence, celui qui est proche du temps de référence, avec des bonus malus par rapport à certaines activités le long du parcours. Les matins, donc, ils verront bien. Et je pense que ça va ramener aussi un peu de piquant à la compétition. Pas forcément le plus rapide qui va gagner, mais le plus agile.
Et en ce qui concerne les équipes, est-ce qu'on sait plus ou moins...
Un reportage qui a été fait par la TSR là-dessus, par Passement les jumelles, hein, désolé pour la pub, mais sur toute cette préparation en amont de ce de la réflexion, le travail sur la préparation du tracassé.
C'est ça.
On dirait, allez sur notre site, tracassé.ch, regardez les photos.
Radio Chablais, programme de nuit.
Véro Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est beaucoup plus clair.
Ça y est, c'est officiel. La CD Festival a gentiment commencé, malgré qu'il est encore hier à Morgin. C'est que dans la région, on adore, on est ultra friand. Et il se trouve qu'il y a une petite fête organisée ce week-end à la patinoire de Monté. Ça s'appelle le plus grand dance floor du Valais, tragédie tête d'affiche, Gaël Jvendi Bar.
Bonsoir.
Tu es organisateur justement du plus grand dance floor du Valais. À mon avis, tu vas pouvoir répondre à la question. Les festivals, c'est quoi?
C'est beaucoup de choses que les gens ne se rendent pas compte, parce que les gens voient effectivement le côté, on loue une salle, on fait venir des artistes, mais c'est beaucoup de travail. C'est sur un événement comme ça, c'est environ 4 mois, pas forcément à 100%, mais c'est environ 4 mois. On a une équipe de quasiment total, on prend la sécurité, etc. On est jusqu'à une centaine de personnes, donc c'est quand même beaucoup de monde. Et voilà, beaucoup de complexité à résoudre. Là, par exemple, il y a les travaux qui sont qu'on lui autour de la patinoire, donc il a fallu gérer tout un tas de, enfin, comment est-ce qu'on fait venir les cas, etc. Donc il y a plein de petites choses qu'on se rend pas compte.
Donc pour toi, c'est avant tout ça, bah, en même temps, t'es organisateur, c'est vrai que pour le public, c'est confortable, en fait, d'arriver et que tout soit organisé. Mais il y a énormément de jobs. Combien il y a de, on va dire, de secteurs ou de départements pour ton festival?
Il y a un secteur programmation, déjà. Ça, c'est vraiment, c'est un métier à part entière. Hein. C'est compliqué de le faire, mais pas le milieu. Il y a un domaine logistique pour les, tous les petits problèmes qu'on, en fait, nous, on anticipe beaucoup de l'anticipation. Il faut imaginer tout ce qui pourrait avoir comme problème. Il y a un secteur bar aussi. C'est quand même une, quasiment la moitié du revenu. Donc, on peut pas se louper. On a quelques heures, en fait, pour faire 4 mois de travail de chiffre d'affaires. Donc, on peut pas se louper. La partie organisation générale, la sécurité aussi, qui importe, il y a tout. Un million de possibilités qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment toujours anticipé. Et je crois, j'espère oublier personne. Je crois que c'est déjà les principaux.
Ça fait déjà quand même pas mal de monde.
Et la technique aussi. Très important, la technique.
Ah ouais, ceux-là, il ne fallait pas les oublier.
Non, c'est presque le plus important.
Ouais, parce que les artistes, quand ils viennent, ils ont souvent ce qu'on appelle un rider technique, oui. C'est-à-dire c'est un avenant contrat, où ils disent, besoin de ci, de ça, au niveau des lights, au niveau du son. Ça prend énormément de temps également.
Alors ça, pour un DJ Snake, un gros groupe, ils ont des riders qui font des dizaines d'âges. On a des artistes un petit peu petits, donc c'est plutôt, on va dire, c'est relativement standard. Mais oui, il faut quand même prendre tout ce qu'ils ont besoin en termes de son, les soundcheck, tout ce qui veut de l'horloge aussi. Il y en a des fois qui ont des petites exigences, donc il faut bien. C'est quand même à chaque fois 10-15 pages de contraintes à étudier avant.
Et qui ont une valeur légale, d'ailleurs, plus passer un avenant au contrat. Et est-ce qu'il y a justement cette année avec Tragédie, est-ce qu'il y a un petit truc, une petite particularité qui t'ont demandé pour les loges ou si tu peux en parler naturellement?
Non, nous on a la chance d'avoir un promoteur qui est dans le milieu depuis longtemps, donc il connaît très bien ce milieu-là, donc c'est un petit peu presque à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer cette étape où on a toute la liste des ils veulent telle bière, tel truc, ça. Donc c'est assez, on n'a pas trop de contraintes, hein, d'exigences particulières pour aucun artiste cette année.
Parce que je sais que de temps en temps, il y a des pépites là-dedans, c'est qu'on a déjà eu, pas en organisant un festival où on te dit, tiens, j'aimerais un truc vraiment pointu.
Oui, alors maintenant que ça fait longtemps, je peux les dénoncer, mais je crois un des pires que j'ai eu, c'est Vengbis, qui était en 2016 d'ailleurs, ouais. Où il y avait des chips croustillantes. Et puis, donc quand ils sont arrivés, ils ont estimé que les chips croustillaient pas assez. C'est 1h du matin qu'on a dû, envoyer quelqu'un à faire le tour de tous les bars et tous les lieux de montée pour trouver des chips qui croustillaient suffisamment.
Ah
et
bon?
Quand on a réussi à les trouver, ils ont goûté, ils ont dit c'est bon, ils ont posé le paquet, ils sont montés sur scène.
Donc voilà, ça. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que vu que c'est un avenant trace, il y a quelque chose qui manque, ils peuvent ne pas jouer leur concert et quand même être payés.
Oui, il y a toujours un petit peu ce rapport de, en gros, comment expliquer ça?
Ce qui est honnête.
Au final, ils s'en foutent de ces chips. C'est juste pour montrer, voilà, nous, on est là, il y a toujours un petit peu, on teste à quel point l'organisateur accepte pas, voilà, c'est presque une sorte de jeu comme ça parfois.
Bon, au moins, ils se croustillent.
Ils ont eu leurs chips au final, ouais.
Bravo à l'équipe de les avoir trouvés. Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute, s'il te plaît, merci d'être venu parce que c'est une excellente occasion pour le faire. Hey ho, de Tragédie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Vadé Rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Pour notre invité, les festivals, c'est beaucoup de choses que les gens ne voient pas nécessairement. C'est un truc qui se centre beaucoup sur l'anticipation maximale de tout ce qui pourrait arriver. C'est du job, 4 mois pour le plus grand dance floor du Valais, qui se tiendra d'ailleurs ce week-end à Monté. Pour de la programmation, la technique, le bar, l'organisation et la sécurité, ça demande tout ce travail. Avec des artistes, en ce moment, c'est de plus en plus à la bonne franquette pour le plus grand dance floor du Valais. Mais des fois, c'est aussi aller chercher des chips croustillants à 1h du mat, plongeons-nous, Gaël Schwendi, organisateur du plus grand dance floor du Valais, plongeons-nous dans la programmation. Commençons par ce samedi, le 27 avril, à la patinoire de Monté. Qui c'est qu'on va pouvoir écouter et voir?
Alors, ce samedi, c'est la traditionnelle soirée année 90-2000, qu'on a débuté en 2016. Donc, si j'enlève le Covid, ça fait, je crois, la 7e édition, sauf erreur. Et on invite à chaque fois au moins un artiste qui a fait un grand hit dans ces décennies-là. On avait reçu Cascada, Bass Hunter, Rednex, Nadia l'année passée.
Ouais.
Et cette année, on a voulu, rester sur le côté un petit peu français. Donc, on a booké Tragédie, qui sont les auteurs du titre qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes.
C'est énorme. Tragédie. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui doit sauter au plafond. Beaucoup d'adolescents que nous étions. Mais bon, ça, c'est, en plus de Tragédie, qui c'est qu'on va pouvoir voir? Parce qu'il y a des DJ avant et après, c'est juste, hein?
Oui, il y a deux DJ qui sont très très doués dans plein de domaines, mais particulièrement dans celui-là. Donc il y a vraiment tous les titres qu'on a adorés, ça va des Spice Girls, là, Fatal Bazooka, Céline Dion, il y a vraiment de tout, de toute la décennie 90 jusqu'à 2010 environ.
Ah, c'est malheureux pour les personnes de mon âge. Mais parce qu'on va rentrer avec des courbatures, parce que bon, moi je fais partie de ceux qui sont plus tellement jeunes, mais la semaine prochaine, là par contre, on pense justement aux plus, enfin, à ceux qui sont un peu moins vieux. Qui c'est bon. Qu'on aura le 4 mai au même endroit, la patinoire de Montet.
Faut quand même dire que sur l'indice, on a un public vraiment très vaste. C'est pas, faut pas penser qu'il y a que des 30-40 ans. Il y a vraiment, ça débute à 18 ans et puis ça va jusqu'à 30-45 ans. Il y a vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup en Valais d'ailleurs, c'est que les gens se mélangent et tout, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais là, on a vraiment une vaste, tout plein de différentes personnes et c'est ça que j'aime beaucoup.
Alors, voilà. Génial!
Et pour le week-end prochain, parce qu'on revient effectivement samedi prochain, là on est sur plutôt des musiques actuelles. Donc là effectivement on est sur un public un peu plus jeune et on reçoit deux artistes qui sont très connus, on va dire sur les 18-25 ans, qui sont NASA et Que Black.
Quel genre de musique ça va être pour les vieux comme moi?
Alors musicalement on aura un petit peu de tout, on aura un peu d'électro, on aura un peu de rap, un peu d'hip-hop, tout ce qui se fait maintenant, ce sera assez populaire, donc assez festif quand même. Et les deux artistes qu'on a, ils sont, je dirais c'est du rap, mais c'est presque, on vire presque sur la pop des fois, c'est très, très commercial.
Et puis, on va revenir à ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir, parce que je crois que vous avez mis un petit peu des moyens au niveau technique pour nous en mettre plein la vue, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça, nous donner 2-3 infos?
Alors chaque année, c'est vrai que ça devient gentiment un rendez-vous que les gens apprécient et rien, donc chaque année on essaie d'augmenter un petit peu les infrastructures. Cette année on a voulu faire un écran, on a beaucoup misé sur l'écran LED, donc il y aura un écran LED de 11 mètres de haut, donc quelque chose d'assez dingue. On a dû d'ailleurs rajouter de la puissance électrique parce qu'il n'y en avait pas assez dans la patinoire, donc on a rajouté des câbles, des tableaux, etc.
Ça, c'est un truc de voir rajouter de la puissance électrique dans une patinoire. Continue.
Oui, c'est pour dire à quel point il y aura vraiment de la technique. Donc je ne vais pas trop en dévoiler parce qu'on garde un petit peu côté surprise. Si on se base sur l'affiche, on est sur un thème Poséidon cette année, donc ça donne déjà un petit indice sur le genre de contenu qu'on pourra avoir diffusé.
Et toi, à organiser ce festival-là, qu'est-ce que tu ressens finalement? Est-ce que c'est juste un business ou bien est-ce qu'il y a un vrai kiff derrière?
Non, c'est un vrai kiff. Moi, si je conseille à personne de le faire juste pour le business parce que c'est beaucoup de travail, c'est des grands risques aussi. Alors, on est sur un budget qui est pas loin des 100 000 francs quand même, donc c'est quand même un grand risque. On doit vendre beaucoup de billets. C'est beaucoup de stress aussi. On apprend à le gérer au fil des années, mais il y a quand même toujours une semaine avant un stress de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça s'est toujours bien passé d'ailleurs, mais il y a quand même ce petit stress qui perdure. Mais il faut être très passionné, je pense, pour être là-dedans.
Ouais, justement, en parlant d'organisation de festivals, en Suisse, on est un des pays d'Europe qui en organise le plus. J'avais fait une fois une recherche pour l'université. Quand j'étais à l'Uni, en 2012, il y a eu 430 et quelques festivals. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est trouver une date?
Trouver un lieu déjà, parce qu'il y a, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a, voilà, il y a plein de communes qui du coup disent non, on veut, ça fait du bruit, on veut pas, donc il faut déjà trouver le lieu. Nous on a un bon programmateur, mais en dehors de ça, c'est compliqué de booker les artistes, de montrer patte blanche. Il y a rien de fondamentalement difficile, mais tout réuni ensemble, beaucoup de choses à faire. C'est la réunion de tous les éléments qui font que ça devient assez complexe.
Donc en fait, par séparé, on va dire par fascicule, ça va, c'est gérable, mais tout ensemble, c'est compliqué. Donc c'est d'autant, enfin c'est ça la raison pour laquelle t'as autant de monde finalement qui travaille pour une ou deux soirées.
J'ai fait l'erreur au tout début, donc il y a une dizaine d'années en arrière, de vouloir faire un maximum moi-même. On s'est vite débordé. Donc je dirais le plus important, si je vais choisir une chose, c'est d'être bien entouré, parce qu'il y a, c'est très compliqué d'être bien entouré. C'est un des points primordial.
Et un petit mot pour les personnes qui stateraient encore, qui se demandent déjà, est-ce qu'il reste encore quelques entrées pour samedi et pour samedi 4 mai, pour samedi 27 avril et 4 mai?
Alors, il reste des entrées, ça se vend très bien, on est très contents, et surtout, il y a un tarif évolutif, un petit peu comme EasyJet, où plus on attend, plus les prix sont chers, donc vraiment, je conseille à ceux qui n'ont pas encore pris le billet de le faire maintenant, parce que les prix vont grimper, et il va peut-être rester 20-30% des billets, donc, mais ça part assez vite.
Et puis, un petit mot, justement, qui pourrait les motiver, une petite dernière phrase?
J'ai envie de garder un peu la surprise, mais ça va vraiment être quelque chose de, techniquement, on va faire vraiment un truc unique. Et puis voilà, c'est une patinoire, on transforme un lieu complètement qui est pas du tout fait pour ça. Il y a vraiment une super bonne ambiance à chaque fois, donc
Donc on va en prendre plein la vue. Exactement. Dans un endroit spectaculaire qui est pas prévu, enfin qui est pas habituel, donc dans lequel on va pas forcément pour ça.
Bah, c'est ça qu'on aime, c'est prendre des lieux qui sont pas du tout faits pour ça. On a un autre festival qui s'appelle Le Plus Grand Lune de Suisse, où on prend aussi des grands volumes un peu cubiques comme ça, on les transforme complètement, et c'est ça qu'on aime faire.
Bon bah écoute, bon vent au plus grand dance floor du Valais. Battez-vous pour les quelques entrées qui restent pour aller voir Tragédie si vous êtes plutôt de ma génération ou amant des années 90 et 2000. Et puis la semaine prochaine, rappelle-moi juste les noms des actrices, c'est NASA et Queblack.
NASA et Queblack, et on a aussi un événement à 19h pour les moins de 18 ans, parce qu'on a toujours les moins de 18 ans qui nous disent ah mais on peut jamais venir aux événements.
Donc il y a une live party.
Voilà, là on aura Bébé, qui est un des, je sais pas si tu connais un peu, c'est une star de la télé-réalité, et puis NASA qui fait du coup un double show, donc un show pour les moins de 18 ans à 19h, et puis après la soirée qui revient pour la soirée.
Et une page web, on peut trouver tout ça ?
Oui, c'est oniriafestival.com, comme ça se prononce au singulier.
Ben c'est parfait, on a toutes les informations. Merci infiniment Gaël Jvendi. Je rappelle que tu es organisateur du plus grand dance floor du Valais à monter, qui se tiendra ce samedi 27 avril avec Tragédie et le 4 mai avec NASA Queblack. Merci infiniment d'être venu nous maintenant lancer un petit peu plus sur les festivals. Je te souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud
sur le grill. Oh,
Lovely Chablais, émergence du tourisme à travers l'art. C'est la nouvelle exposition que vous propose l'espace Graffenried jusqu'au 8 septembre prochain. Maëva Besse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la curatrice de cette exposition. Déjà, d'où est venue l'inspiration de cette exposition ?
Alors, l'idée de cette exposition, elle vient du constat que l'essor du tourisme dans le Chablais au tournant du XXe siècle, et plus généralement en Suisse et dans les Alpes, se ressent clairement à travers l'art, et qu'il prend autant d'ampleur d'ailleurs grâce à lui et sa diffusion.
Alors justement, on voit ce moment qu'on qualifierait, pour le profane que je suis, des romantiques. On découvre aussi tous ces paysages qui ont, entre guillemets, vendu la Suisse grâce aux artistes à l'étranger, tous ces magnifiques tableaux. Et puis ça se ressent aussi dans les affiches, parce qu'il y a de très nombreuses affiches que vous présentez ici, qui dépeignent notre paysage à l'époque. J'ai l'impression, comme on dirait, avec tout le respect que j'ai pour mes amis photographes, qu'il y avait quand même un travail de fond qui était assez incroyable déjà à l'époque.
Oui, alors on a vraiment une diffusion massive d'affiches artistiques, hein, affiches touristiques, mais affiches artistiques, de photographies également, de peintures, de gravures, d'ouvrages, même de spectacles. Et c'est vraiment cette diffusion en fait qui va permettre à la région en fait de se développer de façon autant spectaculaire. Et du coup, on a divisé l'exposition en trois chapitres, à savoir transport, divertissement et hébergement, qui correspondent à trois facteurs du développement et de l'ampleur touristique d'une région. Et du coup, dans ces trois chapitres, c'est vraiment ce développement entre 1850 et 1950 qui est mis en avant, avec par exemple l'industrialisation massive liée notamment à l'apparition des chemins de fer, ou le développement de la montagne comme lieu de contemplation, mais aussi de sport et de loisirs, ou encore l'apparition des hébergements médico-sanitaires.
Toutes ces phases qui ont permis à nos régions justement de se développer, d'évoluer et de passer d'un monde purement rural à un monde touristique, quand on voit l'exposition, on a l'impression que ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu d'opposition, puis les gens se sont dit, tiens, autant les touristes se sont adaptés aux gens qu'ils rencontraient sur place, que les gens, les ruraux se sont dit, tiens, ils ont l'air sympas ces gens-là.
Alors je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais ça s'est fait naturellement dans le sens où en fait tout est lié. Donc l'apparition des chemins de fer va développer la mobilité, donc va développer une région, donc va développer le tourisme. Du coup, il y aura l'art qui va diffuser cette image de la région. Et du coup, le tourisme devient de plus en plus important par la diffusion de l'art. Enfin, tout est vraiment connecté. Et dans ce sens, ça s'est fait naturellement. Après, je suis pas sûre qu'on puisse dire que tout s'est fait de manière fluide. Après, les locaux étaient conscients aussi des apports financiers, des apports économiques qu'offraient les touristes.
C'est chaud. Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud
sur le grill.
Alors justement, ce développement touristique, il a pu amener, vous l'avez dit, les trains, il a pu faire que, ben, par exemple, les matériaux de montagne étaient plus facilement livrés dans un sens et dans l'autre, les produits aussi de l'alpage, de la montagne et même des régions périphériques étaient plus facilement accessibles à la ville. Et donc ça a permis aussi, on va dire, aux urbains et aux touristes de découvrir aussi, au-delà d'une gastronomie, un savoir-faire.
Oui, un savoir-faire, et puis il y a vraiment des offres spécifiques qui se sont créées en fonction des régions. Donc dans le Chablais, bah, il y a évidemment la montagne, la contemplation de la nature, le sport, les loisirs, mais il y a aussi justement cette présence d'hébergements médico-sanitaires qui est vraiment un savoir-faire, si on peut le dire, assez propre à cette région, à l'arc lémanique également.
Qui a créé des liens, parce qu'on le voit typiquement avec Lézan, on le voit avec d'autres endroits, où après c'est des gens qui sont venus ici, gardent un souvenir de la région, alors de la contemplation, mais aussi des amitiés et autres, et des gens qui vont faire perdurer cet ancrage touristique, cet ancrage local.
Oui, alors là, dans les sources qu'on a traitées, ben, c'est vrai qu'on voit plusieurs familles, notamment d'Anglais, qui reviennent un peu chaque année et qui perdurent justement cette tradition du tourisme en Suisse et dans les Alpes.
Alors dernière chose, pour revenir à la base de la discussion et de l'interview, dans la première partie, se dire que voilà, toutes ces magnifiques œuvres, ces magnifiques tableaux, ces photos qu'on voit ici dans l'exposition, c'est aussi des mêmes tableaux, des mêmes photos qui ont été ensuite exportées un peu plus loin et qui ont permis à la Suisse et à nos Alpes, à nos montagnes, d'exister ailleurs et de donner des envies d'ailleurs à d'autres gens.
Oui, alors ben, c'est vraiment intéressant le caractère diffusable, si je peux le dire, de l'art et des médiums artistiques qui ont été choisis par ces artistes, notamment ben, l'affiche, la carte postale, la gravure. C'est vraiment des médiums qui sont choisis par leur qualité en fait, de diffusion, qu'ils s'exportent vraiment à l'étranger. Et bah, évidemment, l'image qu'on a de la Suisse aujourd'hui, enfin, on parle du Chablais, mais plus généralement de la Suisse et des Alpes, elle a été créée par les artistes au tournant du XXe siècle, à ce moment-là, en plein essor du tourisme, et elle perdure.
Qui est-ce qu'on découvre ici? Parce qu'on connaît tous les grands dont on a toujours entendu parler, Caspar David Friedrich, on a Baudelaire, on a Anker, tout ça. Qu'est-ce qu'on présente ici, peut-être qu'on aurait envie encore de découvrir?
Alors, on a choisi de pas axer cette exposition sur la peinture. Donc, vous avez quelques œuvres, notamment d'Albert Gosse ou de Frédéric Rouge, des artistes importants pour la région. Mais on s'est beaucoup concentré sur les affiches, les cartes postales, les photographies. Donc, avec des artistes peut-être moins connus, mais qui ont joué un rôle important justement dans ces médiums-là. Notamment Émile Gosse, Martin Paikert, qui lui est plus connu, Rodolphe Michaud, enfin d'autres artistes un peu moins connus qu'un Baudelaire ou qu'un Friedrich, comme vous le disiez, là où on est un peu après cette période.
Mais la dernière chose, on rappelle qu'il y a donc des événements toujours organisés en parallèle. Comptez les Jambes des Alpes avec les commentaires par Alix Noble-Burnand, par exemple, le 6 juin. Des visites After Work du 27 juin au 29 août à 18h en collaboration avec l'Office Tourisme d'Aigle. Un atelier de cartes postales avec Natacha de Santignac, c'est tout public, le 15 août à 14h. Et puis, la visite brunch finissage des expositions le 8 septembre à 10h30. Tout ça sur inscription, bien sûr. Toutes les infos, espace graffenried.ch. Merci beaucoup.
Merci. C'est chaud.
Sur le grill.
Oh, Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Une dernière fois. Faudrait que j'y revienne. Bon, en même temps, j'habite la commune. J'habite à Colombey, moi. Je suis montaisan, mais bon, alors, par contre, je suis allé habiter à la limite, hein, le plus proche possible de monter. Mais mon très cher guide, Emmanuel, on doit se quitter. Avant de ça, moi, je veux quand même savoir pourquoi, dans votre petit cœur à vous, Colombey, c'est effectivement le nombril du monde.
Mais parce que j'y suis né, j'ai mes racines, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui y sont. J'aime ce village, j'aime cette commune, j'y ai consacré du temps, j'y consacre toujours un petit peu de temps, mais de moins en moins, et puis j'y vois que les beaux côtés, c'est ça. Je dirais que l'amour de ma commune m'aura un petit peu aveugle s'il y a des aspects négatifs, mais il y en a très peu de toute façon.
Mais c'est beau ça de dire, bah voilà, en fin de compte, oui, alors, des aspects négatifs, il y en a très peu, c'est pas grave, mais c'est bien de voir que les aspects positifs, en plus vous m'avez montré des choses superbes de ma commune à moi.
Alors, il y a des choses superbes, et puis, de nouveau, est-ce qu'on est amateur de verre à moitié plein ou à moitié vide. Personnellement, je suis plutôt positif de nature et puis j'aime voir les belles choses et c'est les choses que je regarde. Je suis pas aveugle aux choses à améliorer, mais voilà. Si on doit s'attacher aux choses qui sont négatives, on va pas loin dans la vie.
C'est pas faux du tout. Moi, je voulais juste vous poser une question. On dit Colombé Roux et Colombé Roude, mais est-ce que les Colombé Roux ont un sobriquet?
Je ne crois pas. Non, je ne connais pas de sobriquet pour les Colombé Roux.
Pas besoin?
Non, on est parfait, non, pas besoin.
Et ben voilà, ils sont parfaits, donc il n'y a plus rien à dire. Vous retrouvez ça, bien sûr, comme d'habitude, dans les replays de Radio Chablais, cette semaine du Nombril du Monde à Colombé.
Radio Chablais.
Le Nombril du Monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de Murphy.
C'est Murphy qui l'a dit.
Alors, vous le savez, depuis le début, je suis un livre ouvert, je vous raconte ma vie souvent, et aujourd'hui n'est pas une exception. Il m'est arrivé galère sur galère mardi dernier. Alors, pour vous raconter très vite fait, je roulais un peu vite pour être à l'heure, je me suis fait arrêter par les flics, donc ça m'a mis en retard, et plus loin sur la route, ils ont décidé de faire des travaux, et donc gros bouchon de plus de 30 minutes, résultat, je suis arrivée en retard, et comme un malheur n'arrive pas seul, enfin une galère n'arrive jamais seule, et ben je me suis payée une jolie migraine. Tout ça, ça m'a amené à me poser la question existentielle suivante. D'où ça vient cette loi de Murphy? Pourquoi Murphy nous a maudits avec sa théorie? Alors pour celles et ceux qui prennent le train en route, la loi de Murphy, c'est un adage qui dit qu'une catastrophe ou une galère n'arrive jamais seule. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai fait mes petites recherches pour comprendre l'origine de ce dicton, et par la même occasion pester contre Murphy, eh ben j'ai été surprise de constater que la loi de Murphy, eh ben c'est pas exactement ça. Déjà, pour commencer, c'est qui ce Murphy? En fait, il s'agit de Edward Murphy, qui était un ingénieur de l'US Air Force. Et en gros, il faisait des tests sur un chariot propulsé par une fusée, et son assistant a un peu chié dans l'école en installant de travers les instruments de mesure de l'accélération du chariot. Bref, il a tout fait de travers. Du coup, Murphy, il aurait dit par frustration, s'il y a un moyen de faire des erreurs et de foirer un truc, eh bien c'est ce gars, en désignant son assistant, qui le trouvera et qui le fera. Et cette phrase a par la suite été simplifiée à tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Et effectivement, c'est un peu plus condensé, on va dire. En fait, je me suis rendu compte que cet adage, c'est plutôt un principe de précaution où on va essayer d'imaginer les pires scénarios possibles pour pouvoir les prévenir et les éviter, en fait. C'est pas du tout un principe de pessimiste qui consiste à dire qu'une galère n'arrive jamais seule. Et j'ai été assez choquée de me rendre compte de ça aussi tard dans ma vie. Ce qui veut dire qu'on est quand même beaucoup à être des gros pessimistes quand même. Je dis ça, je dis rien. Bref, arrêtons d'être pessimistes un instant et considérons notre verre à moitié plein parce que c'est le meilleur moyen d'étancher sa soif. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question.
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie de cette émission, on a parlé de la loi de Murphy et on a vu qu'en vérité, à la base, ça voulait pas du tout dire un malheur n'arrive jamais seul. C'était plutôt un principe de précaution afin de prévenir tous les scénarios catastrophes qui pourraient ou pas arriver. Et ça m'a donné envie de décortiquer l'expression du jour. Un malheur n'arrive jamais seul, ce que je pensais être la définition de la loi de Murphy, mais qui en fait est un adage qui date du Moyen-Âge, possiblement du poète Ruth Boff dans son poème La Complainte. La Complainte qui a d'ailleurs été reprise et interprétée par Léo Ferré en 1955. Je pose ça là. Moi perso, l'expression du même style qui me parle le plus, c'est jamais deux sans trois. Mais bon, c'est du pareil au même. En fait, l'explication de ce phénomène, hein, un malheur n'arrive jamais seul, ça se trouve dans la psychologie. Évidemment, on va pas en faire de bon matin comme ça, parce que c'est quand même vendredi matin, en plus c'est veille de week-end. Mais en gros, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est un peu comme les lunettes à travers lesquelles on voit la vie. Par exemple, si le verre des lunettes Si c'est gris, on ne voit que les choses grises de la vie. Et si les lunettes sont roses, on chante à tue-tête du Édith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que la chance attire la chance et la poisse appelle la poisse. C'est-à-dire, on dit un malheur n'arrive jamais seul, mais un bonheur n'arrive jamais seul non plus. Tout dépend de comment on choisit de réagir face à une situation. Moi, j'ai choisi, par exemple, d'accepter le fait que je me suis fait choper en excès de vitesse et je le prends comme une leçon parce que j'aurais pu faire un grave accident, j'aurais pu jamais arriver à destination et du coup, l'amende, même si un peu salée quand même, elle est juste et donc je l'accepte sans trop pester. Mieux vaut arriver en retard que pas arriver du tout, les amis, gardez bien ça en tête. Donc soyez toujours prudents sur les routes, ne faites pas comme moi, respectez les limitations de vitesse, mais surtout n'oubliez pas de mettre vos lunettes teintées de rose.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Chablais.
Entre vous et nous,
avec Cyril.
Bonjour et bienvenue. Entre vous et nous, c'est parti, c'est midi et demi. Et comme tous les vendredis jusqu'à 13h, on vous donne des infos, des conseils et tout ce qu'il faut avant le week-end. Avec nous aujourd'hui, notre druide préféré, Dominique Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Une merveille. Dominique Garonne, aujourd'hui, on parle du fer.
Oui. Exactement, un oligo-élément extrêmement important pour notre organisme.
On va expliquer comment justement on fait attention à son fer. Et puis, lui, il a le fer tendu pour justement parler de règlement. C'est avec nous, Léonard Dupéret, bonjour.
Bonjour Cyril.
Ah, là, quand je parlais de fer tendu, je parle d'épée, bien sûr. Je vois vos yeux un petit peu tourner. Parce que vous montez au créneau contre le nouveau règlement sur les voitures, c'est bien ça ?
On va expliquer un peu où est-ce que, ce qu'il en est.
Alors, parce que j'essaie de le mettre en mode chevalier, mais on sent qu'il reste quand même temps. Péré comme garçon. Ce sera en deuxième partie d'émission. Trouvez-nous, c'est parti. Bon, Dominique Garonne, moi oui. J'ai toujours rêvé d'être Popeye quand j'étais enfant. J'ai mangé des épinards, ça m'a pas donné les bras de Popeye.
Grave erreur.
Le fer.
Le fer, c'est bien, le prendre, c'est mieux, si on en a besoin. Non, ben, justement, prendre des épinards. Il n'y a rien du tout parti. Dans les épinards, surtout dans les lentilles. On en trouve énormément dans les lentilles. Par exemple, okay. Les épinards, nul, zéro.
Donc ça, on peut le dire tout de suite aux enfants, pour leurs parents.
Voilà,
manger des épinards, lentilles. Pourquoi pas, mais pas, voilà. Pas pour le fer.
Oui, parce que pourquoi ? Parce que Popeye mangeait la boîte. Ah. La boîte en ferraille, là.
Forcément, on n'a pas les mêmes chicots. Non, alors, les lentilles, mais tout d'abord.
Alors, le fer, c'est un élément extrêmement important, comme le iode, par exemple, qui va pour la thyroïde, pour l'hyperlipothyroïdie. Par exemple, le cuivre or argent, oligo-élément pour augmenter la force immunitaire. Une fois, on peut faire une émission sur tous les oligo-éléments, pourquoi ils sont bons. Oligo veut dire en grec peu. On en a peu dans notre organisme, on doit les donner pour les rebooster. Alors, justement, ce fer. Qui est extrêmement important pour l'enfant, la mère, les adultes. Voilà. Mais le problème, c'est que le manque de fer et trop de fer sont les mêmes symptômes.
Ah, c'est-à-dire les symptômes. Il faut identifier.
Ah, c'est ça, ouais. Les personnes, je veux dire, il y en a énormément de ces symptômes. Hein. C'est perte de cheveux, en cassant, fatigue générale, allant. Jusqu'à la déprime. On déprime, hein. Des troubles de la concentration, les baisses des performances, on a une lassitude, on a une peau pâle, on a pour avoir des maux de tête, on est toujours irritable, de mauvaise humeur, une sensation d'avoir toujours froid, des frissons, hein, une mauvaise circulation dans les mains et les pieds, des fourmillements, le moral sous les talons, hein, comme j'ai dit.
J'avais dit petit à petit, c'est le mariage, mais disons, c'est impressionnant.
Non, mais c'est impressionnant, ce fer. Et souvent, l'hypotension, une tension basse, ça peut donner des acouphènes, hein, des commissures des lèvres toujours gercées, puis on n'arrive pas à les refermer, on met n'importe quelle pommade, pourquoi ? C'est un manque de...
Mais c'est impressionnant ce que vous dites, parce qu'à part ça, c'est des symptômes qu'on peut avoir dans plein d'autres cas, dans donc il faut vraiment pouvoir identifier.
Exactement, ouais,
c'est ça met juste, du temps à identifier.
Voilà, exactement, c'est juste ce que tu dis, c'est difficile à identifier, mais je prends juste un petit exemple. L'autre fois, une dame de 34 ans qui vient, qui était fatiguée, qui avait elle perdait ses cheveux par poignée et tout.
Ah hein. Oui, quand même.
Et puis elle avait le moral sous les talons. On lui donne un antidépresseur. pendant un mois. Et c'était l'horreur pour elle.
Ben ouais.
Je lui ai fait contrôler son fer.
Le remède est pire que le mal, si
on peut. Bien sûr. Trois semaines, trois jours après, elle revient, le fer était tout en bas. Elle a pris du fer et trois semaines après, tout était dans les normes. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours chercher le pourquoi du comment. C'est ça le problème. Mais maintenant, on n'a plus le temps de discuter. Voilà, vous déprimez un antidépresseur. Vous perdez les cheveux, un truc pour les cheveux. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Et puis, souvent des afters à répétition aussi. Okay. Des afters dans la bouche, vous mettez n'importe quoi, vous gargarisez avec l'élixir du suédois, du vinaigre et tout, et ça revient à chaque fois. Et c'est un manque de fer ou trop de fer. C'est pour ça que j'insiste. Manque de fer et trop de fer sont les mêmes symptômes. Donc, il faut quand même faire vraiment une prise de sang pour savoir quoi, comment.
Il n'y a que la prise de sang qui pourra vraiment définir. Voilà,
tout à fait. Et puis chez les gamins, ça peut donner une hyperactivité. Et puis, ben voilà, la TDAH, trouble d'attention avec hyperactivité. Et là, il faut regarder d'abord le fer. Les enfants anémiques, ben, ils ont de la peine à se concentrer. Il faut, au départ, regarder le fer. C'est ça qui est important. Et je dis bien, on cherche midi 14h, mais on ne cherche jamais pourquoi. Et souvent, alors après on conseille de si on sait les résultats, hein, parce que trop de fer, c'est simplement des saignées, il n'y a pas de médicaments.
C'est impressionnant à part ça quand même, hein, pour avoir des connaissances qui voilà. Donnent les fers.
Trop de fer, c'est l'hématochromatose, ça peut donner le cancer du foie. Hein. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des saignées. Et puis souvent c'est génétique. Alors le père ou le grand-père qui ont eu ça, les enfants doivent quand même regarder.
Faut parce contrôler.
Que on fabrique du fer, on ne sait pas pourquoi. Le manque de fer, mieux vaut prendre un fer naturel qu'un fer bivalent, qui est beaucoup mieux absorbé par l'organisme. Qu'un fer trivalent, des fers chimiques ou des fers en injection, parce que quand on injecte du fer, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, ça peut donner des thromboses, alors il faut faire vraiment attention.
Bivalent et trivalent ?
Bivalent, c'est le fer naturel,
okay.
Et puis trivalent, c'est le fer chimique. Et puis le fer chimique, ben, qu'est-ce qu'il peut il peut causer de la constipation et puis des nausées, tandis que le fer naturel,
ben,
il
n'y
a aucun souci, il est beaucoup mieux absorbé par l'organisme. Et en 10 jours, moi j'ai pris du fer, mais il ne remonte pas. Alors, on se pose la question, pourquoi ? Parce que il y a chez certaines personnes qui ont des problèmes d'estomac, par exemple l'Helicobacter pylori dans l'estomac qui empêche une bonne fixation du fer, trop de zinc, on a parlé du zinc, il faut les prendre du zinc pendant ce fameux Covid et tout, là on se bourrait de zinc, et trop de zinc, on a également extrêmement important aussi, et ben il empêche une bonne fixation du fer. Vous avez aussi des
conséquences.
Ben ouais, et puis éventuellement des vers dans les intestins peuvent empêcher une bonne fixation du fer. Et puis aussi, quand on prend du fer, on conseille de toujours prendre avec la vitamine C ou la vitamine B12. Et puis souvent, il y en a qui ils suivent bien le règlement, mais ils se bourrent de thé noir, ça empêche une bonne fixation du fer.
Donc toujours varier voilà. Les plaisirs.
Et en plus, le lait, les produits laitiers rendent plus difficile l'absorption du fer. Ben, la faute revient au calcium que contient beaucoup les produits laitiers. Si on prend le fer sous forme de comprimé de goutte, on devrait une heure après ou une heure avant prendre ces médicaments naturels pour le faire avant de prendre des produits laitiers, des yogourts, du lait, enfin bref. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui ne fixent pas bien le fer. Il faut aussi se poser la question, pourquoi ?
Parce que justement, il peut y avoir un problème d'alimentation problème purement médical ou génétique.
Et puis, savoir aussi que les femmes qui ont des règles abondantes, elles ont un manque de fer. Ça c'est
normal. C'est logique.
Bien sûr. Mais là, voilà, après, ben, on va chercher midi 14h, puis on sait pertinemment qu'elles ont un manque de fer à cause des règles abondantes. Et ben, elles vont justement prendre beaucoup de fer naturel. Les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes, c'est important de prendre du fer, surtout les trois derniers mois, parce que l'enfant a besoin de fer, l'enfant et la mère devraient doubler la mère devrait doubler la dose de fer.
La dose de fer. Ben ouais. Alors, justement, maintenant, pour pas non plus faire n'importe quoi et abuser du fer, on fait comment ? On fait par cure. Vous l'avez dit dans les lentilles, donc dans l'alimentation, mais là aussi, ben, comme on le dit toujours, non trompons sans faux.
Voilà, bien sûr, mais on a énormément de produits naturels, hein, énormément. Bon, on a en spagyrie, on a les gélules floradiques, on a gélules de strates, et puis on a des comment, dans les aliments, hein, dans les aliments comme je viens de le dire, les lentilles, dans le parmesan aussi. Bon, le parmesan il contient beaucoup de calcium, faut faire un petit peu attention. De nouveau, on parle du calcium, mais
ouais,
pas
mais un premier tout de petit fer. Peu sur la carbonara.
Voilà,
on n'a
jamais assez.
Voilà. Parce que fer est important aussi pour l'hémoglobine, c'est quoi? C'est les globules rouges. Et puis les globules rouges et le fer, ben, ils vont amener de l'oxygène, justement, des poumons aux cellules du corps. D'où l'importance de ce fameux fer, parce que tous les sportifs devraient prendre du fer aussi. Parce que ça amène de l'oxygène aux muscles. Les femmes enceintes, les personnes d'un certain âge, justement, qui ont des problèmes de fatigue, devraient regarder du côté du fer.
Mais alors, on fait comment? On va voir son médecin préféré. Prise de sang, ouais, contrôler le fer, juste pour être sûr.
Analyse de cheveux. Là, on peut soit prise de sang.
Arrêtez de nous regarder comme ça, Dominique. Vous avez deux chauves en face de vous.
Ah, j'ai deux tatas pieds nus en face.
On parle un peu trop de capillarité aujourd'hui. Ouais,
il va nous vexer bientôt. Non, alors, donc, prise de sang ou les cheveux?
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Puis les conséquences d'une anémie, ben moi, c'est des risques cardiovasculaires, des œdèmes, des membres inférieurs, une augmentation du risque de la maladie de Parkinson, hein. Et puis chez la femme enceinte, ben un risque accru de naissance prématurée et du bébé qui peut naître avec un poids très très faible. Et puis comme je l'ai dit, chez les enfants, des troubles d'attention avec hyperactivité. Alors c'est pour ça que ce fer est un oligo-élément extrêmement important et on devrait toujours, au départ, lorsqu'on est, je viens de citer tous ces symptômes, ouais. Voir si c'est vraiment le fer ou bien autre chose. On dit que lors chaque menstruation, l'organisme féminin peut perdre de 15 à 30 mg de fer, c'est quand même énorme, puis on en a besoin de 5 mg par jour.
Donc, forcément, si on en perd 30, c'est pas gagné.
Alors, justement, c'est pour ça, mais j'insiste pour que souvent que le fer naturel est beaucoup mieux absorbé par l'organisme que le fer chimique. C'est pas parce que je veux vendre du naturel, mais le fer chimique, comme je dis, il donne des nausées, de la constipation, en plus.
En plus de tout. Et puis, si on a des questions, ben, on va voir son sabre gris préféré.
Exactement, voilà. Et on est là pour, justement, écouter et renseigner.
Merci Dominique Garonne. La Dominique Garonne a monté, bien sûr, cette interview, cet entretien, dès cet après-midi en podcast sur radiochablais.ch d'ici quelques instants. On fait un point voiture et nouveau règlement sur les véhicules avec Léonard Dupéré du Garage Imoff. À tout à l'heure.
Radio Chablais, programme de nuit.
Entre vous et nous,
l'émission pour bien vivre au quotidien.
Et justement, pour mieux vivre au quotidien, on vous a parlé du fer il y a quelques minutes avec Dominique Garonne de la Droguerie Garonne. Et maintenant, on va parler de nouveaux règlements véhicules, sujet qui rend bien énervé notre invité du
mais
jour.
Pas du tout.
Léonard Dupéré du Garage Imoff. À Aigle, un petit peu, comme ça, léger.
J'ai des gélules inactives.
pour calmer la peau. Bon alors, expliquez-nous, il y a des nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur, c'est ça?
Voilà, la nouvelle réglementation GSR. GSR, c'est justement le règlement sur la sécurité générale des véhicules. Donc c'est une série de systèmes qui sont obligatoires.
Dorénavant sur les véhicules.
Donc ce sera obligatoire depuis le 7 juillet 2024, donc 7 juillet prochain quoi.
Mais ça veut dire que c'est pour les véhicules qui seront produits.
Oui,
on
ne
va pas changer
son
véhicule.
Non, on ne va pas rajouter sur un véhicule qu'on a actuellement, mais tous les véhicules neufs, ils seront
à partir du 7 juillet produits avec ça. Tous les véhicules.
Toute l'Union européenne.
Ok.
Puis la Suisse parce que.
Bah voilà.
Parce qu'elle suit les voilà exactement. Et puis, ce règlement, il a été adopté en 2019. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines aides à la conduite qui existent déjà. Mais okay. Après, à partir de juillet 2024, elles seront obligatoires sur toutes les voitures neuves. Alors, le but de ça, c'est d'améliorer la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et tout. Et puis, d'après leur statistiques, elles devraient sauver plus de 25 000 vies et éviter au moins 140 000 blessés graves d'ici 2038.
Dans l'Europe.
Voilà, ça c'est des statistiques, après...
On verra.
Voilà.
Mais alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification?
Il y a encore une autre chose à voir avec ça. Ils vont aussi compléter le cadre juridique pour tout ce qui est véhicules automatisés et connectés. Parce qu'on vient de plus en plus avec des voitures...
qui se débrouillent.
Bientôt autonomes, ouais. Et puis c'est pour les voitures automatisation de niveau 3. Ça, c'est les voitures qui seront autonomes sur l'autoroute.
Okay.
Seulement. Et puis niveau 4, c'est sans conducteur. Ça, c'est pour les petites navettes urbaines et les taxis robots.
À fond.
Donc là, ils sont en train de préparer un peu le cadre juridique de ça. Et puis de regarder pour évaluer la maturité de ces systèmes, un peu pour les homologuer, quoi, les processus d'essais, de tests, etc.
Un retour vers le futur avec 20 ans d'écart, quoi. Ensuite.
Avec les skateboards qui volent. Et puis aussi tout ce qui est cybersécurité. C'est sûr que s'il y a des véhicules connectés, il ne faut pas que les pirates puissent.
Bah oui.
Voilà, on est d'accord. Et puis pour appuyer tout ça, ils ont encore fait une étude qui dit que 95% des accidents, elle est due à une erreur humaine. Mais bon, en même temps, c'est un humain qui l'a conduit pour l'instant, donc voilà.
Alors, c'est logique.
Ouais. Mais si on parle justement de ces aides à la conduite, de ce qui va être nouveau, là, on va parler que pour les véhicules légers, pas les poids lourds et les camions. Mais là, je vais juste dire la liste, et puis après, je reviens un peu pour plus de précision. Donc, il y aura avertisseur de somnolence et contrôle de l'attention du conducteur, détection en marche arrière. Un enregistreur de données en cas d'accident, donc une boîte noire comme dans les avions, un éthylomètre anti-démarrage, cybersécurité, ça c'est tout le pour les véhicules connectés, adaptation intelligente de la vitesse maximum, maintien de voie actif, assistant de freinage d'urgence et les feux de freinage d'urgence.
L'éthylomètre sera obligatoire dans toutes les voitures désormais.
Non, en fait, ce qui va être prescrit, c'est l'interface, le câblage, et puis qu'en fait, que ce soit facile à installer par après.
Ok. Mais c'est en prévision du futur.
Et tu le mets quand on rentre dans la voiture, on a quand même appuyé sur un bouton pour savoir si on a de l'alcool.
Voilà, mais ils veulent que le système, c'est que si on doit souffler dans un appareil, si on a trop d'alcool, elle démarre pas.
Bah ouais.
Ah, d'accord.
Mais la loi, ce qui est prescrit, c'est que le système soit installable facilement, pas qu'il soit installé d'office.
Mais veut dire que tout est prévu pour que l'avenir soit ainsi fait.
Alors, j'ai pas trouvé d'infos de pour qui on va les installer, mais peut-être les chauffeurs professionnels, je sais pas.
Enfin, d'accord. Ça,
pas d'infos précises là-dessus. Après, pour le système d'aide au freinage d'urgence, ça c'est un système, souvent c'est une caméra dans le pare-brise et puis un radar dans la calandre qui surveille la route en permanence. Si quelqu'un freine devant vous, vous n'avez pas vu, elle va avertir. Si vous faites toujours rien, elle freine toute seule. Après, il y a un autre cas, par exemple, si on vous coupe la route, là, le système il détecte que le choc n'est pas évitable, alors elle freine à fond. Tout de suite, c'est pour, gagner en temps de réaction. L'électronique, il est plus rapide que l'humain. Et puis sinon il y a aussi une étude qui dit que en freinage d'urgence, par exemple, on est en train de rouler, on voit un obstacle qui survient, on va freiner à fond avec l'adrénaline, enfin, et puis ensuite on relâche un peu les freins, puis on rappuie souvent les gens font ça, puis là on va perdre quelques mètres qui peuvent être importants de gagner. Donc ça veut dire que là on va calculer le système, il va calculer la vitesse à laquelle on appuie sur la pédale de frein. Parce que si on fait une petite décélération, il va voir qu'on appuie tranquillement. Si on appuie vite, même si on relâche, en fait lui il a capté freinage d'urgence et puis il met l'assistance maximum pour gagner ses précieux mètres. Voilà.
Ok. Ça veut dire que tous ces éléments-là, donc on l'a dit, dès le 7 juillet, ce sera sur les nouveaux véhicules.
Oui.
Et puis vous vouliez compléter.
Oui. Après il y en a encore d'autres de.
Allez-y.
L'avertisseur de somnolence, donc ça, et perte d'attention, ça c'est une caméra qui va nous regarder, nous en fait, qui va regarder les yeux surtout. Donc si on est distrait, ben c'est clair, on regarde pas devant. Et puis si on ferme les yeux, ben elle va le voir aussi, puis ça va avertir, puis inviter à faire une pause.
C'est intéressant parce que tous ces systèmes, à part ça, mais après je vous laisse parler, mais ça invite à aider, entre guillemets, mais ça veut dire que peut-être on va avoir moins d'attention parce que justement le véhicule prend pas mal la main, puis après sur la somnolence, paradoxal quand même, il va falloir installer un petit système où il y aura des petites aiguilles qui piquent un peu les fesses pour se tenir éveillé. Je vous laisse compléter, c'était personnel. Et inutile, mais personnel.
Après, le système détection de marche arrière, ça c'est pas mal, c'est seulement que la caméra de recul ou les radars acoustiques seront obligatoires. Donc ça, ben s'il y a quelque chose de petit derrière qu'on voit pas, ben au moins voilà, ça c'est vraiment. Mais c'est souvent comme ça dans l'automobile. Il y a des choses. Par exemple, ces caméras de recul et puis les radars à la base c'était pour des véhicules haut de gamme. Après, ça fait ses preuves et puis ça devient obligatoire pour tout le monde. Mais ça c'est.
Bon, après ça c'est très intéressant aussi. Hein. Puis ça permet de sauver des vies, de faire attention, de sauver son véhicule, de pas rouler sur n'importe quoi et n'importe comment.
Exactement. Et puis système d'adaptation intelligente de la vitesse, ça c'est un système qui va regarder les panneaux de vitesse.
Ah, ça c'est le sujet que vous préfériez quand on a préparé cette émission.
C'est sympa. Si on dépasse de 1 km/h la vitesse signalée, ça sonne, voilà. C'est
un kilomètre
avertissement. Bah oui, ouais. Dès que c'est dépassé.
Bon, d'un kilomètre. En même temps, permet de faire flasher de temps en temps à Lucerne, en région lucernoise où les radars sont méga suisse-allemand précis. Là, au moins, peut-être qu'on économisera 8 ans de francs chaque voyage dans la région. Je vous laisse continuer.
Mais certaines personnes, ça va les rendre nerveux, je peux vous dire. Et puis,
il nous reste 1:30.
Après, il y a un truc qui est pas mal. Quand on freine avec une voiture, on a les feux arrière qui s'allument rouge, c'est clair. Mais on ne sait pas si la personne elle est en train de freiner fort ou si elle ralentit juste un petit peu. Tandis que maintenant, si on fait un freinage d'urgence, le feu arrière il va clignoter très vite. Même certaines voitures, elles vont avoir les feux de panne qui s'allument en même temps pour dire là, c'est pas attention, un freinage juste pour ralentir un peu.
Ce qui est très intéressant sur l'autoroute, parce que justement, c'est quand on arrive vite, ça permet d'anticiper.
On sait pas s'il s'est juste fait un petit peu couper la route puis qu'il ralentit ou s'il y a vraiment le voilà.
Alors que là, ça va signaler attention, crash à envisager.
Voilà, et puis après, il y a encore le système anti-collision qui lui va entrer en action, mais ça, c'est pas un système qu'il faut tester. Hein, ça,
en cas ultime. Les dernières secondes.
C'est d'ailleurs jamais noté en fait que ça évite le choc. C'est dans les limites de la physique, hein. Mais ça tapera sûrement moins fort en tout cas.
C'est juste pour interpeller les gens. On a fait le tour.
Oui.
Intéressant en tout cas tous ces règlements. Donc le 7 juin.